BFM Business et RMC Découverte présentent Good Morning Business, spéciale élections européennes, décryptage et analyse des résultats, Laure Clauzier.
8h17 sur BFM Business et sur RMC Découverte. On est toujours depuis le Parlement européen à Bruxelles pour décrypter les résultats des élections européennes d'hier soir et cette dissolution surprise en France de l'Assemblée nationale. Avec moi en plateau, Christina Van Bergen, senior expert à la Commission européenne, Roland Gillet, professeur d'économie financière à l'Université Paris 1, Panthéon Sorbonne, Anna Hubert, journaliste énergie chez Context et Benaouda Abdedaïm qui est avec nous depuis ce matin 6h. Je commence avec vous, Christina Van Bergen, quand vous regardez cette stabilité au Parlement européen et en même temps ces séismes nationaux, que ce soit en France mais aussi quand même en Allemagne, qu'est-ce que ça vous inspire?
Bon, premièrement, pour moi, ces élections, c'est plutôt un débâcle national qu'européen. On a vu hier soir et toute la nuit, tout le monde, enfin, on ne peut pas encore conceptualiser si l'Europe est sous l'empreinte de l'extrême droite. Je pense, à mon avis, que c'est une fausse perception. Il y a effectivement un petit décalage vers la droite, mais pour le reste, l'Europe, la configuration du Parlement européen reste un petit peu pareille. Mais ce qui compte, ce n'est pas qui va gagner les élections, mais comment les alliances seront formées. Puisque nous avons comme exemple le Green Deal, qui a été tellement tergiversé, qui a été mené, a été propulsé. Ensuite, il y a eu des régressions de la part du PPE dans le contexte géopolitique actuel. Donc, c'est ça qui compte, et surtout le fait que maintenant il y a une fragmentation du Parlement européen, il y a beaucoup des indépendants. Former des groupes politiques, ça va être très difficile, puisqu'il s'agit de respecter certaines conditions, comme par exemple avoir 25 députés, être membre de 5 pays de l'Union européenne, 7 pays de l'Union européenne. Donc ça va être très difficile et cela aura de l'impact sur les politiques. Et donc, le Green Deal, c'est pour moi le pilier, le plus grand défi du Parlement européen, puisqu'il faudrait expliquer l'impact du changement climatique. Il n'y a aucun défi plus important que le changement climatique. Et ça s'applique à tout le spectre des partis politiques.
Le Green Deal, Anna Hubert, il est voté. On en est à la mise en œuvre. On n'a plus rien à changer.
Qu'en fait, ce qu'on a adopté surtout, c'est les textes qui permettent d'arriver à l'objectif 2030. Mais la Commission doit présenter un objectif 2040. Et donc, tout un paquet aussi de mise en œuvre de cet objectif. Et ça, c'est ce qui devrait se passer sous le prochain mandat. Ça ne va pas avoir l'ampleur de ce qu'on a vu là, mais il y a quand même ce défi-là. Et on a vu hier soir que les grands partis, le SND par exemple, donc le parti de gauche des socialistes, a mis le Green Deal dans la balance en disant si vous voulez une coalition, si le PPE, si Ursula von der Leyen veut une coalition avec nous, nous, on veut que le Green Deal continue. Les Verts, forcément, ont dit la même chose. Donc si on table sur la coalition qui existe actuellement, PPE, SND et Renew, le Green Deal sera dans la balance. Et pour l'instant, les chiffres, je crois que la coalition, c'est 407, c'est 407 eurodéputés. Donc, alors,
c'est juste qu'il pourrait y avoir un peu plus de pression de la part des pays.
Oui.
Et de là aussi la fragmentation, les indépendants, tout ça. Mais pour le reste, j'ai plein d'espoir par rapport à cette initiative.
Alors, Roland Gillet, en Europe, on est quand même habitué. C'est pas la première fois qu'on vote texte par texte. En fait, on fait des deals, des alliances à chaque sujet, quasiment.
Oui, tout à fait. Par contre, ce qu'il y a quand même dans la balance aussi ici, c'est ce qu'on peut se payer en Europe. Il y a l'Europe, d'accord, il y a le Green Deal, certainement, et on y a mis déjà beaucoup de moyens, et on voudrait bien le mettre en œuvre. Vous avez vu quand même qu'il y a toute une série d'éléments qu'on doit regarder au niveau de la scène internationale. Le coût de l'énergie en Europe est un problème pour notre industrie, est un problème même pour les résidents de chacun des pays. Ça coûte relativement cher, même l'électricité coûte cher. Donc clairement, aujourd'hui, il faut regarder ce qu'on peut mettre derrière le Green Deal et notre avancée par rapport à beaucoup d'autres zones géographiques mondiales où là, c'est moins important, à tort peut-être, le climat, et de voir comment on peut affronter aussi la concurrence internationale. On voit d'ailleurs que l'Allemagne n'a pas la même position sur le sujet, étant donné le fait qu'elle a quand même une concurrence, elle qui est totalement internationale, parce que ses exportateurs sont principalement des gens qui vendent en dehors de
pas
l'Europe.
Pas le rapport à la Chine, et donc, pas le même
exactement.
Rapport...
Exactement, et donc ici, on voit quand même ce qui s'est passé. Ça n'a rien arrangé avec la guerre en Russie. On voit que d'autres qui ne se servaient pas autant avant du gaz ou du pétrole russe s'en servent à des prix réduits, puisqu'ils ne sont pas en embargo, ces pays-là, des grands pays comme la Chine d'ailleurs. Et donc, clairement, aujourd'hui, il faut quand même regarder ce que tout ça coûte. On sait aussi qu'il y a quand même des choses qu'on doit dire aux contribuables et que tout le monde sait, c'est qu'une bonne partie encore de ce qui se fait en Russie, je parle en termes de carboné, fait parfois tout le tour de la Terre, alors qu'avant, il venait en direct par Nord Stream. Je vais dire le canal le plus direct. Et donc, il faut quand même qu'on regarde au niveau mondial.
Et géopolitique contre
exactement,
écologie.
Exactement. Et par contre, vous avez vu, ce sera sans doute, on va le faire. Mais la rapidité avec laquelle on voulait d'abord se mettre au niveau de ce qu'on décide à la COP21, à la COP24, à tout ce que vous voulez, à un moment donné, il y a des impératifs mondiaux sur lesquels on doit ne plus être des naïfs. Et quand on voit encore aujourd'hui, même si on avance que 80% dans beaucoup de pays, d'énergie qui produit l'électricité est carbonée, avec une aberration en Allemagne dans le plus grand, ou en plein anticyclone d'hiver, au moment où il n'y a ni soleil, parce que c'est l'hiver où très peu est du brouillard, et pas de vent, on est obligé de mettre des centrales alignées qui font effectivement rouler les TGV. Dans d'autres pays, on a l'impression que c'est propre. Donc je pense que tout ça, on doit le mettre aussi avec une certaine dose de réalisme sur la table.
On va reparler de la question de cette Europe naïve, cette Europe qui doit se protéger. C'était des mots qui sont beaucoup ressortis pendant la campagne. On est avec Ludovic Subran, chef économiste chez Allianz. Ludovic, Antoine nous le disait dans le point marché, il y a quand même un stress ce matin sur le marché des changes, sur les marchés actions en pré-marché. Ça se tend quand même un petit peu.
Bonjour Laure, bonjour à tous. En effet, ce qui est sûr, c'est que c'est un choc d'incertitude de plus. Après, je pense que ce que ça va créer, c'est surtout de l'attentisme, notamment parce que c'est très complexe. Hein. Moi, depuis ce matin, j'ai arrêté de compter le nombre de bêtises que j'ai lues ou j'ai entendues sur le fait que les élections sont complètement comparables, alors qu'on sait qu'elles ont deux tours, que c'est des sujets beaucoup plus locaux, etc. Mais c'est vrai que c'est inattendu. À un moment où on ne sait pas quand la Fed va baisser les taux, à un moment où on a des élections déjà au tournant avec le Royaume-Uni. Donc c'est sûr que ça rajoute du stress. Donc les actifs risqués, notamment les actions, vont certainement un peu perdre. Et puis sur les taux, ça va forcément se tendre un peu davantage que juste après la perte du AA par S&P qui avait été un non-événement. Donc voilà, ça c'est un peu le sujet. Après, on va regarder les promesses politiques du RN. Si on regarde 2022, je vous rappelle que c'était à peu près 20 points de dette sur PIB supplémentaires. Parce qu'on revenait sur tout les réformes de protection sociale, etc. Du coup, ça serait un énorme événement budgétaire sur la crédibilité de la France pendant l'été. Donc, ce serait quand même assez catastrophique.
Benaouda Abdedaïm, quels sont, on parlait du Green Deal, qu'est-ce qu'il y a là dans les autres, dans les mois à venir, comme gros sujet européen à venir ?
Très certainement, la politique de mesures punitives de rétorsion de la Commission européenne vis-à-vis de la Chine. Ce qui est très marquant, c'est que dans la presse d'État ce matin à Pékin, les élections européennes, on n'en a rien à faire. Plutôt, ce que va décider la prochaine commission concernant les véhicules électriques chinois exportés en masse vers l'Union européenne. C'est aussi cette configuration-là qui risque d'être rebattu aujourd'hui à l'issue des élections.
Exactement. Donc, apparemment, c'est aujourd'hui que la Commission européenne va décider d'appliquer de nouveau des nouvelles taxes sur les voitures électriques chinoises. Donc.
Et c'est là où on voit quand même l'impact des politiques locales. On était avec un représentant eurodéputé du RN tout à l'heure. Il nous disait que sur la question des voitures électriques, il interdirait l'accès des véhicules chinois à l'Europe. En tout cas, c'est son projet. Ça pousse quand même cette évolution des extrêmes dans le Parlement à plus de protection, une Europe moins libérale qui échange moins. Oui. C'est ça la vision.
Bon, ponctuellement, sur cet aspect, c'est vrai que, par exemple, Olaf Scholz disait que non, il ne faut pas taxer. Imagine que ça nous arrive à nous. Mais c'est une question fondamentale, puisque nous avons vu qu'il y a eu des visites de la Chine en France, en Europe. Et finalement, il y a eu un agreement, un partnership, un accord de coopération avec la Russie qui est fondamental, qui change toutes les données. Et je pense que c'est le moment pour l'Europe de se réveiller et de prendre une approche vraiment très stratégique. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on joue à mi-chemin ou est-ce qu'on on est radical ? Donc tout ça doit être le résultat résultat d'un scénario, pas seulement sous un coup de tête, on va décider d'imposer les entreprises chinoises ou des choses comme ça. Donc c'est une analyse, un impact assessment qu'on a besoin.
Anna Hubert, avant le journal de 7h30.
Oui, sachant que cette tendance-là, elle a déjà commencé, on voit que la Commission de plus en plus met en place dans les textes du Green Deal des mesures miroirs pour que les normes qui s'appliquent aux Européens s'appliquent aussi aux importations. Donc c'est
une tendance
qui n'est pas complètement assumée, mais qui quand même par petites touches, on voit qu'elle s'inclut dans le Green Deal européen. Donc ça va effectivement sans doute s'accentuer.
Roland Gillet.
Un réflexe naturel aussi, c'est comme on l'a dit tout à l'heure et vous l'avez répété, c'est si à un moment donné on met des taxes sur quelque chose, qu'on ne s'étonne pas que les Chinois sur d'autres choses vous remettent aussi chez nous. Donc, et clairement d'un pays à l'autre, et c'est ça aussi qui fait la grosse différence.
C'est un miroir des deux côtés.
Oui, et surtout en Europe, on est plutôt désunis dans ce qu'on a comme commerce avec la Chine. Et donc, autant certains sont touchés par le secteur automobile, d'autres ne le sont pas, mais sur d'autres produits, ça les intéresse pouvoir continuer à faire des deals avec la Chine. Donc il y a beaucoup de négociations qui sont au niveau national et qui passent à côté, justement, d'une discussion qui, pour le moment, sur le plan européen, fait que certains sont plutôt réservés, parce qu'à mon avis, ils jouent un jeu aussi avec la Chine qui n'est pas nécessairement celui de ce qu'on voudrait voir, notamment sur les véhicules électriques.
Et c'est le seul joker, la carte joker qu'on a encore, l'aspect économique, hein, les relations avec la Chine. Étant donné, justement, l'accord qui a été conclu avec la Russie, qui est un partenariat stratégique sans précédent et que tous les leaders doivent le lire pour savoir où on est. Donc c'est un processus sans retour. On est dans un contexte géopolitique, j'ose dire, de la guerre froide.
On a un point fort quand même en Europe, c'est nos consommateurs qui peuvent acheter des véhicules électriques. On en parlera avec Ben Aouda. 350 millions de consommateurs, c'est quand même ça.